La retraite, c'est une bénédiction. Nous pouvions avoir le désir de venir nous-mêmes en retraite, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui nous en a parlé, qui nous a incité à venir ici. Et c'est vrai que lorsqu'on a connu soi-même la retraite, on a envie de la faire partager, de la faire découvrir à d'autres. L'exemple célèbre de Saint Ignace de Loyola, qui voulait faire les exercices à tout le monde. Puis il y avait, c'était un jésuite forcément, c'était le premier des jésuites. Donc il avait déjà ce désir de conquérir les princes, les rois, les principaux, les chefs. Et il connaissait un prince justement, un seigneur qui menait une vie de patachon, pas très sérieux. Et il s'était dit, mais il a des vertus naturelles, il a vraiment des capacités, et s'il se convertit, alors il deviendra un chevalier du Christ, au service du royaume, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors il n'arrêtait pas de lui en parler, sans arrêt il le sollicitait, il le tannait, n'ayant pas peur des mots, il allait le voir sans arrêt, jusqu'à se rendre odieux. Et puis un jour il va le voir encore dans son château et l'autre n'était pas disposé à le rencontrer, il est en train de jouer au billard. Alors on finit quand même par l'introduire, il arrive dans la salle de jeu et puis poussé par une audace surnaturelle, il va voir le Seigneur et lui dit « Bon, il est temps d'arrêter vos plaisanteries. Il est temps d'arrêter vos plaisanteries. » Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire 30 jours avec moi. Voilà. Alors, l'autre, bien sûr, ne voulait pas. Et puis, ils finissent par tomber d'accord, par faire un marché. Et le Seigneur lui dit, on va faire un pari. Et les 30 jours, on verra bien de quoi il s'agit après. Et Saint Ignace lui dit, on va faire un pari. Ce que vous voulez. Et l'autre lui dit, on va jouer au billard ensemble. On verra bien qui va gagner. Alors Saint Ignace lui dit, c'est simple. Celui qui perd se met au service de l'autre pendant 30 jours. Et puis il se trouve qu'il a gagné. Saint Ignace, qui n'avait jamais joué au billard, il a remporté la partie brillamment. À l'autre, elle n'en revenait pas. C'est un petit miracle. Il faut être sûr de soi quand même pour faire ce genre de pari. Peut-être d'ailleurs que parmi vous, il y en a qui sont ici après avoir perdu un pari stupide. J'espère que vous ne regretterez pas au terme des 5 jours. Voilà, alors dans la retraite, il y a une première partie qui peut être un peu difficile. Il y a toujours une partie un peu purgative, la purification. Donc vous avez entendu parler, c'est sûr, de ce qui est arrivé dans l'ancienne alliance avec le. Donc oui, c'est ça, le péché originel, le déluge, etc. Et puis on vous a expliqué, on vous a rappelé ce que c'est que le péché, la gravité du péché. Et donc il convient qu'on dise un petit mot sur le sacrement de pénitence, la confession. Nous avons, nous, dans nos statuts, les statuts de la fraternité, un passage très beau, c'est Monseigneur Lefebvre. On se confessera tous les 15 jours. On aura en grande estime ce sacrement, tant pour soi que pour les fidèles. Les saints prêtres ont passé leur vie au confessionnal. C'est là que se réalise particulièrement l'efficacité du sacrifice de la croix. Selon la parole de notre Seigneur, c'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Saint Jean chapitre 12. La pastorale du sacrement de pénitence a une importance capitale pour la sanctification d'une paroisse et pour l'éveil des vocations. Dans nos statuts, 7e partie. Alors, appuyé sur cette citation, il nous paraît intéressant de dire quelques mots sur les richesses du pardon divin. Et nous suivrons le plan suivant. Nous dirons quelle est la pédagogie divine, comment Dieu s'y prend, pour nous pousser finalement à désirer le sacrement de pénitence. Nous répondrons à quelques objections rapidement, qui sont peut-être les nôtres, hein, ou bien celles de gens que nous connaissons, les membres de notre famille, les voisins, toutes les objections possibles et imaginables contre le sacrement. Et puis nous verrons un petit peu les actes du pénitent. Bon, d'abord, avant même le sacrement, avant même d'entrer dans le confessionnal, donc l'examen de conscience, et puis, dans le cadre même de la réception du sacrement, les trois actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, la confession et la satisfaction. Et nous terminerons en disant un mot de ce qu'on appelle la confession fréquente. Alors la pédagogie divine, tout d'abord, il y a trois mots qui résument la manière utilisée par le bon Dieu pour faire découvrir aux hommes la pénitence. Le péché, la miséricorde et la conversion. Le péché tout d'abord, on vous en a déjà un petit peu parlé, Dieu c'est le souverain législateur. Il a posé des lois dans la création. Alors les êtres inférieurs, bon, les plantes, les animaux, ils suivent des lois. On en a déjà un petit peu parlé. C'est très beau de voir l'harmonie qu'il y a dans la création. Toutes ces lois posées par le Créateur. Ben, les plantes, les animaux obéissent à ces lois. Ce qu'on appelle l'instinct chez les animaux, vous voyez. Donc ils suivent ces lois nécessairement en accomplissant ce pourquoi ils ont été créés. Le lion mange la gazelle. Bon, c'est pas un mal. Ben, pour la gazelle, si. Bon, c'est pas un péché en tout cas. Le lion, il a été créé comme ça, avec des dents de carnivore. Il ne faut pas imaginer un jardin d'Éden où le lion mange de l'herbe. Même le péché originel qui a changé bien des choses, qui a perturbé un petit peu toute la création, ben, il n'a pas changé la nature des êtres. Même les hommes, ils ont toujours la même nature humaine. Donc les êtres inférieurs suivent ces lois nécessairement en accomplissant ce pourquoi ils ont été créés, et c'est ainsi qu'ils rendent gloire à Dieu. Voilà. Alors des lois existent aussi pour les hommes. Si les hommes respectent, suivent ces lois, alors ils arrivent au bonheur. Le vrai bonheur, ils accomplissent la volonté de Dieu, ils suivent le chemin que le bon Dieu veut leur voir suivre pour obtenir le bonheur. Et l'homme, il est libre. Et nous savons par expérience que l'homme, c'est chacun d'entre nous, est capable de faire un mauvais usage de sa liberté. Il y a un certain nombre de lois, on peut les enfreindre. Celui qui enfreint gravement une loi de Dieu, ben, il montre qu'il n'aime plus Dieu, il s'en détourne totalement par un péché mortel, ou alors il montre qu'il l'aime de manière insuffisante. C'est ça le péché véniel, c'est qu'on aime Dieu de manière insuffisante. Donc le péché ne se définit que par rapport à Dieu, c'est un manquement envers lui. Et alors, d'un bout à l'autre des Saintes Écritures, nous avons cette plainte qui revient toujours, « J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Voilà. » Et cette plainte, nous devons la faire nôtre parce que nous sommes tous des pécheurs. Quelques exemples, David, le roi prophète David, « J'ai péché contre Yahvé », dit-il dans le deuxième livre de Samuel. Bon, c'est toute l'histoire de sa conversion, c'est le psaume 50, le Miserere. Un très beau psaume, hein, qu'on peut lire, méditer, pour préparer justement la confession. Alors, parfois, on cherche des idées. On cherche des idées. Ben, on peut préparer un petit peu sa confession. Il est bon aussi de faire un petit peu d'action de grâce après. On reçoit quelque chose qui a un grand prix, qui nous vient de Dieu, qui est purement gratuit. Il faut savoir remercier. David, j'ai péché contre Yahvé. Et aussi dans Michée, je dois porter la colère de Yahvé puisque j'ai péché contre lui. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, « Mon Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis. » Saint Jean, dans sa première épître, « Si nous nous disons sans péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. » Donc nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Donc le premier point, c'est le péché. Voilà. Et dans la pédagogie divine, il y a un mot très important qui vient immédiatement, c'est « miséricorde ». Miséricorde. Si nous sommes pécheurs, nous savons aussi pouvoir compter sur ce magnifique attribut de Dieu. Nous avons parlé des attributs, des perfections de Dieu. Ben voilà, la miséricorde infinie de Dieu. Et comme l'étymologie nous l'indique, la miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère d'autrui. Et Dieu nous aime tellement qu'il a pour nous un amour miséricordieux infini. La première expérience de la miséricorde de Dieu que nous livre la Bible, elle récompense la foi de Moïse, son intercession suppliante. C'était au moment de la proclamation des 10 commandements. Bon, Moïse était resté un certain temps sur la montagne et les Hébreux n'avaient pas pu l'attendre. Ils avaient fait preuve de faiblesse et avaient fait ce misérable veau d'or. Moïse était foudrage, le bon Dieu était particulièrement contrarié, il souhaitait châtier durement le peuple hébreu, et Moïse donc est intervenu là comme médiateur, il s'est interposé et a supplié le bon Dieu de pardonner, et c'est ce qu'il a fait. Un bel exemple de miséricorde. Hein. Alors, eh bien, Dieu a ce désir de pardonner. Il y a de nombreux passages dans la Sainte Écriture. Et il y a ces deux versets qu'on peut citer. Dans Ézéchiel, chapitre 33, « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. » Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dans le Nouveau Testament, nous le savons, la miséricorde de Dieu, elle éclate à toutes les pages, hein, de l'Évangile. Il faut lire, par exemple, le chapitre 15 de Saint-Luc, tout le chapitre. C'est le chapitre de la bonté, le chapitre de la miséricorde, avec cette fameuse parabole de l'enfant prodigue qu'on écoute à midi. Là. C'est très beau, ça. Hein. Donc, notre Seigneur nous l'a dit lui-même, c'est pour les pécheurs qu'il est venu. On a l'exemple de Zachée, de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, qu'on a fêté samedi dernier, la femme adultère, la Samaritaine. Bon. Donc Dieu pardonne et il est toujours prêt à pardonner, c'est important ça. Hein. Qu'il n'y ait pas justement de désespoir, comme Judas. Judas, c'est ça, ça, la faute la plus grave qu'il a commise, c'est celle-là. Hein. Ce désespoir, ne plus croire que Dieu soit capable de pardonner. Et il est allé se tuer, se suicider. C'est terrible. Dieu est toujours prêt à pardonner. Mais alors, de notre côté, qu'est-ce que nous devons faire? C'est donc le troisième point, la conversion. Voilà, c'est ça que le bon Dieu attend de nous, la conversion. Au départ de la conversion, il est là, avec sa grâce, bien sûr. Et ensuite, faire un effort, se tourner vers Dieu. Donc la condition que Dieu exige de nous pour nous faire miséricorde, c'est la conversion. Nous nous sommes détournés de Dieu pour préférer une créature, un bien créé. Nous devons donc détourner de cette créature, nous retourner vers Dieu. Comment? Eh bien, sous la motion d'une grâce. Vous avez vu ça, la grâce ponctuelle. C'est une grâce actuelle. Jamais sans la grâce, c'est important ça. Alors saint Augustin dit ceci, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te justifie pas sans toi. » C'est très connu. Ça veut dire que Dieu demande notre collaboration, notre coopération à la grâce. Alors il nous faut faire pénitence et déchirer notre cœur. Cette expression est très belle, déchirer notre cœur, déchirons notre cœur. Les Hébreux ont de très belles expressions imagées comme ça. Donc, nous devons déchirer notre cœur, comme nous y invite le prophète Joël, chapitre 2. Et c'est un autre prophète, Jérémie, qui décrit cette attitude. « Après m'être détourné de Dieu, je me suis repenti. J'ai compris et je me suis frappé la poitrine. Mea culpa. J'étais plein de honte et de confusion. Oui, je portais sur moi l'opprobre de ma jeunesse. » Alors cette pénitence n'est pas facultative. Elle manifeste en nous un abandon complet du péché. Je laisse derrière moi le péché, je le regrette, et j'ai ce désir de me corriger, de faire mieux, de progresser. Je relève la tête, je me tourne vers Dieu. Donc il ne faut pas... C'est bien de prendre conscience de son péché, mais il ne faut pas ressasser son péché, méditer son péché. On ne médite pas un péché, on ne médite pas strictement. On peut considérer les péchés qu'on a commis dans le but d'avoir davantage de contrition. Mais on ne passe pas son temps à ressasser ça. Vous voyez, on ne doit pas s'enfermer dans sa culpabilité. Voilà. Nous nous repentons et nous nous mettons immédiatement, dans le même temps, à chercher Dieu. Et notre tristesse se changera en joie. Saint Thomas qui explique ça. Celui qui se repent, qui cherche Dieu, eh bien, il petit à petit, sa tristesse se change en joie. Et il cite Saint Augustin à l'appui de cela, que le pénitent pleure toujours et se réjouisse de pleurer. Alors la pénitence, nous le savons bien, c'est d'abord une vertu avant même d'être un sacrement. Ce sacrement, il a été institué, comme les six autres sacrements, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la pénitence, ça existait déjà avant, dans l'Ancien Testament. La vertu de pénitence, d'accord ? On en parle très souvent dans l'Ancien Testament. C'est une vertu qui est nécessaire à tout homme, même avant le Christ. Mais elle devient, c'est vrai, spécifiquement chrétienne après la venue du Sauveur et sa mort pour nous sur la croix. Alors c'est aussi le nom d'un sacrement. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Saint Jean chapitre 20. Notre Seigneur institue le sacrement de pénitence. Les apôtres à ce moment-là sont déjà prêtres. Ils peuvent, oui théoriquement ils peuvent dire la messe, ils ne peuvent pas encore confesser. C'est ce qui se passe le jour de l'ordination. Si vous avez assisté à une cérémonie d'ordination, d'abord on est ordonné prêtre, on peut célébrer le Saint-Sacrifice de la messe, mais la chasuble dans le dos est encore pliée, symboliquement. On n'a pas encore reçu le pouvoir de confesser. Ça c'est à la fin de la cérémonie seulement. Eh bien ça y est, les apôtres ont reçu ce pouvoir. Donc eh bien, nous devons nous souvenir que nos péchés... Et grâce au sacrement de pénitence, nos péchés sont lavés dans le sang du Christ. C'est une belle image. Sainte Catherine de Sienne aimait beaucoup cela. Elle disait, quand elle allait se confesser, je vais au sang. Je vais me plonger dans le sang du Christ. Donc de manière mystique, le sang du Christ coule sur notre âme dans le sacrement de pénitence. Et bien de manière mystique, pas de manière symbolique. C'est pas juste symbolique, c'est pas de la poésie, une manière sympathique de parler, de présenter les choses. C'est mystique. Le mystique, c'est quelque chose de bien réel, mais c'est pas la même chose que nous voyons, que nous pouvons toucher. C'est pas d'ordre physique, c'est d'ordre mystique, mais c'est bien réel. Voilà. Alors tout de suite... Avant d'aller plus loin, répondons à quelques objections. Voilà. C'est important, déjà pour nous, de savoir répondre aux objections. Parce qu'on peut avoir des moments de doute et de découragement. Le démon est assez fort pour profiter de nos moments de faiblesse, pour jeter le trouble dans notre esprit. Puis ça peut être aussi l'occasion pour nous de consoler tel ou tel de nos frères, d'éclairer son intelligence et puis de chasser les objections. Mais faut-il savoir y répondre. Alors on entend parfois bon, ces objections très classiques. Oh, mais ça sert à rien de toute façon d'aller voir un prêtre, c'est un homme comme nous. Moi, je me confesse directement à Dieu. Moi, je lui parle et il me comprend. Bon, mais parler directement à Dieu, c'est bien. Ça s'appelle la prière. Ben, prions, hein, avant de recevoir le sacrement de pénitence. Préparons le sacrement. Regrettons déjà notre péché. Alors, il est vrai qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. D'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait à notre Seigneur, hein, quand il disait « Va en paix, tes péchés sont remis, va et ne pêche plus. » Les pharisiens étaient scandalisés. C'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés, strictement. Mais il est également vrai de dire que il est libre de décider comment il faut s'y prendre pour obtenir le pardon. Alors, il a clairement manifesté son intention que le pardon soit transmis par son ministre sur terre, par le prêtre, qui est le médecin des âmes. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, les apôtres ont entendu ça, et ensuite ils l'ont transmis hein, à leurs successeurs. Et tous les prêtres ont cette possibilité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de pardonner. Alors, quand nous souffrons, nous allons voir le médecin. Et on ne se contente pas d'ouvrir la porte et puis de s'asseoir dans une chaise. On lui explique un petit peu ce qui se passe, pour qu'il sache, qu'il puisse porter un jugement éclairé, faire un diagnostic, bon, et puis prescrire donc des remèdes. Mais c'est la même chose pour lorsqu'on va voir le médecin des âmes, le prêtre. On vient pour être délivré de nos infirmités spirituelles. On doit lui faire connaître par une confession sincère. Voilà. Ouais, mais mon père, moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, vous savez, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Avec ma femme, on a une petite vie très simple. Je gagne normalement ma vie, je paye mes impôts. C'est bien possible, mais Saint Jean lui-même a déjà répondu par avance, il y a 2000 ans, à cette objection qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et il est lui-même agent de propitiation pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous sommes tous pécheurs. Hein? Alors si ça fait longtemps qu'on n'a pas examiné sa conscience, allons voir un prêtre. Pas encore pour se confesser, d'accord, mais au moins pour obtenir peut-être quelques conseils, hein, qui nous donnent eh bien, peut-être une méthode pour y voir clair, pour examiner sa conscience de manière un petit peu méthodique, sinon exhaustive. Pour ne pas perdre de temps, hein, voir tout de suite dans quelle direction il faut aller. Allons voir un prêtre pour préparer une bonne confession. Oh là là, mais avec ce que j'ai fait, oh là là là, quelle horreur. Un péché, c'est vraiment la honte, là. La rachma. Un péché pareil, si je le confesse, alors là, c'est même plus la peine d'avoir le prêtre après. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Là, il faut que je déménage, hein, que je... Bon, bien, nous sommes tous des pécheurs. Les prêtres se confessent eux aussi. Si, on se confesse même toutes les semaines. On se confesse tous. Hein. Le pape, il se confesse. Ah oui, il fait pas le malin. Il se met à genoux comme nous, un prie-Dieu. Puis de l'autre côté de la grille, il y a un prêtre qui représente notre Seigneur Jésus-Christ et qui écoute sa confession. n'y a pas à discuter, hein. Il n'y a pas de titre de noblesse à faire valoir. Là, on est tous à égalité. Hein. Bon. Le prêtre sait distinguer le pécheur du péché. Ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous devons avoir la haine du péché, mais l'amour du pécheur qui se repent, qui obtient le pardon de Dieu. Et ça procure de grandes joies au prêtre. Ça fait partie des plus grandes joies du sacerdoce, hein, c'est le confessionnal. Bon, j'ai pas une grande expérience du ministère, mais bon, j'ai le privilège d'être à Paris quand même. Bon. Donc en moyenne, c'est une heure de confession chaque jour. Donc sur un an, bon, on a le temps de voir quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de cas. L'expérience, elle vient vite et il ne faut pas longtemps pour entendre un petit peu tout ce qu'il y a sur un examen de conscience. Hein. Que pensez-vous de moi ? Demandez à saint François de Sales, un pénitent, après sa confession. C'était un grand pénitent. Que pensez-vous de moi ? Il avait peur, hein, de l'attitude du prêtre. Hein. « Je pense, mon fils, répondit-il, que vous êtes maintenant l'ami de Dieu, puisque vous avez recouvré sa grâce. Les larmes que je vous ai vues verser ont fait sur mon cœur le même effet que fait l'eau sur le brasier d'un forgeron. Elles n'ont fait qu'embraser l'amour que je vous porte. » Donc c'est pas le fait d'écouter les péchés qui procurent une joie au prêtre, c'est vraiment de voir cette âme qui est délivrée, qui se tourne vers Dieu, qui a ce désir de mieux faire. Hein. Bon. Alors si éventuellement il peut y avoir du respect humain, bien sûr, hein, on est ainsi fait. L'Église est une bonne mère, elle prévoit justement la possibilité de se confesser au prêtre de son choix. Profitons des récollections, des missions, des retraites. Bon, lui au moins, il est à Paris ou il est en Suisse. Enfin, j'ai peu de chance de le revoir. Je suis peut-être au pèlerinage de Pentecôte, mais de loin. Bon. Si vraiment ça peut vous soulager. Hein. Donc les confesseurs extraordinaires, il y en a même dans les couvents. Hein. Bah oui, et puis c'est pas laissé comme ça au hasard. Hein. La mère supérieure, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Hein. C'est prévu dans le droit canon, ça. Hein. Oui. Ça, c'est pour celles qui sont cloîtrées. Hein. Mais celles qui peuvent sortir, alors là, c'est plus facile pour elles. Elles peuvent aller voir le prêtre qu'elles veulent, quand elles veulent, et la supérieure n'a rien à dire. Bon. Oui, mais vous comprenez, aller se confesser et puis retomber toujours dans les mêmes fautes, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est même plutôt hypocrite. Alors, il vaut mieux pas y aller pour pas aggraver son cas. Alors Pierre, s'approchant de lui, « Seigneur, dit-il, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21. Donc celui qui a la contrition, le regret d'un péché, souhaite ne plus retomber, et le sacrement lui donnera des forces pour ne pas retomber, des grâces préventives, des grâces médicinales pour l'avenir. Le sacrement de pénitence, c'est pas, on ne regarde pas dans le rétroviseur, on ne se contente pas comme ça de regarder ce qui s'est passé. Le passé, c'est un sacrement qui est tourné vers l'avenir. Voilà pourquoi... Il est bon de se confesser régulièrement, on va le revoir ça. Tourner vers l'avenir, il nous donne des grâces dont on aura besoin par avance, on les reçoit là, pour pouvoir résister aux tentations à venir. Alors nos défauts, nos mauvaises tendances ne s'effacent pas immédiatement, ça c'est sûr. Il faut souvent lutter de nombreuses années contre les inclinations mauvaises, qui sont comme une seconde nature dont il est bien difficile de se défaire. Alors, bon, la première chose, c'est qu'il faut savoir accepter humblement, justement, les blessures du péché originel, notre faiblesse. Puis il faut demander à Dieu la patience, la persévérance. Bon. Surtout si c'est vraiment une mauvaise habitude ancrée, bien ancrée en nous, un vice, ça partira pas ordinairement, ça ne partira pas du jour au lendemain. À moins de s'appeler Saint Paul ou Sainte Marie-Madeleine, mais ça c'est miraculeux, c'est pas la loi ordinaire du genre. Ben, faut pas se décourager, ça veut pas dire que ça durera 50 ans pour autant, on sait pas, mais il faut combattre, il faut lutter. Alors il faut demander la patience et la persévérance, avoir la simplicité de nous reconnaître malades, et allons aussi souvent que nécessaire auprès du médecin des âmes qu'est le prêtre. Il y aura des péchés toute notre vie ici-bas. Il n'y en aura plus au ciel. Dieu merci, si par bonheur nous y allons, on n'empêchera plus. S'il y a des péchés ici-bas, c'est parce qu'on fait un mauvais usage de notre liberté, ce qui ne sera plus le cas au ciel. On sera entièrement capté dans la vision de Dieu, l'amour de Dieu, la béatitude éternelle. Donc on possédera le bien parfait, le bien infini. Mais ce n'est pas le cas encore pour l'instant. C'est l'heure du combat contre nous-mêmes, combat spirituel. Ouais. Alors comment est-ce qu'on peut examiner sa conscience? Parce qu'avant même d'aller frapper à la porte du confessionnal, bon, en général on frappe pas à la porte du confessionnal, hein. On prend le rideau violet, hop, puis on s'agenouille derrière, ni vu ni connu. Mais c'est bien, c'est important, ça. C'est la pédagogie de l'Église aussi. Hein. Les églises modernes, il y a un immense aquarium avec un prêtre plus ou moins en habit religieux là, en train de lire La Vie ou Famille Chrétienne. Bon, on a peur d'aller le déranger. Hein. Alors il y a d'abord l'examen de conscience. Voilà. C'est important ça. Imaginez une personne qui frappe à la porte du médecin. D'ailleurs elle frappe pas, elle sonne et elle rentre. Comme ça que ça se passe. Puis une personne charmante à l'entrée qui lui indique la salle d'attente. Bon, ensuite on est introduit dans le bureau du médecin. Le médecin nous interroge. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Bah, tout va bien, docteur. Bah, oui, mais enfin. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Vous souffrez de quelque chose? Ah non, pas du tout, non. Mais ça fait 3 mois que j'ai pas vu de médecin. Non, je me suis dit ça pourrait être une bonne idée. Bon, les médecins doivent rarement entendre ce genre de propos, et pourtant, ce genre de dialogue existe au confessionnal. Hein? Il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à accuser leurs péchés. Elles ont parfois tendance à énumérer tout ce qu'elles ont à reprocher aux autres. Voisins, mari, enfants. Hein? Alors le Christ a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin du médecin. » Alors si vous portez bien, hein, bon, mais on a tous des misères. C'est Peggy qui commente « La charité de Dieu ne peut panser celui qui n'a point de plaie. » Bon, mais alors est-ce qu'il y a un seul être humain sur terre qui n'a point de plaie? Ben non. Seulement il faut, pour découvrir ses plaies, il faut avoir le sens du péché. Et puis, il faut un petit peu entrer en soi-même. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça nécessite une bonne connaissance de soi-même. Et la connaissance parfaite de soi, elle est difficile. Pour 2 raisons. D'abord, parce que nous sommes plus attirés par les choses extérieures. Voilà. Ce monde visible là, dans lequel nous sommes plus à l'aise, là, nous sommes plus attirés par ça que par ce petit monde invisible qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Puis nous sommes orgueilleux, nous aimons encore moins à constater nos défauts. Nos qualités, ça on les connaît bien en général. C'est toute la partie reluisante de notre personnalité. Mais il y a la face cachée aussi, hein. De temps en temps, il faut aller l'explorer. Alors, donc la première difficulté, c'est ça. La connaissance parfaite de soi est difficile pour les 2 raisons que je viens de donner. Et puis, il est parfois difficile de démêler les rapports nature et grâce, volontaire, involontaire. Vous l'avez vu, pour qu'il y ait un péché, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été interdit par Dieu, la matière. Il faut avoir conscience de ça, puis il faut le vouloir. Hein? Bon. Mais c'est parfois difficile de savoir est-ce que c'était volontaire, semi-volontaire. Parfois, dans les manuels de théologie morale, il y a des distinctions savantes, hein. Semi-conscient, semi-volontaire. Dans un demi-sommeil, il reste plus grand-chose. Hein. Alors, on lira avec profit l'imitation de Jésus-Christ. Monseigneur Chevreau recommandait cet ouvrage à midi. Il donnait une autre référence, je vous la donnerai plus tard d'ailleurs, mais il y a celle-ci qui est intéressante, hein, très intéressante. Livre 3, chapitre 54. Ça, c'est important, hein, pour ceux qui ont des... Bon, pas pour ceux qui viennent de se convertir, hein, mais pour ceux qui ont une vie chrétienne, bon, normal, bah, déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, ça explique bien, hein, les rapports nature-grâce, volontaire-involontaire. Alors, pour bien examiner sa conscience, les saints, tous les saints, hein, recommandent l'examen de conscience, bien évidemment. Alors, l'un d'entre eux, Saint Ignace, nous donne une méthode très simple, en 5 points. C'est une petite prière, en fait, vous voyez, la petite prière du soir avant de se coucher. D'abord, eh bien, rendre grâce à Dieu des bienfaits reçus. La première chose, merci mon Dieu pour cette journée que vous m'avez donnée, pour tout ce qui s'est passé, pour le bien que j'ai pu faire, pour toutes les bénédictions que j'ai reçues, toutes les grâces que j'ai reçues. Rendre grâce des bienfaits reçus. Et ça, c'est bien déjà en soi, mais c'est doublement intéressant parce que ça prépare la contrition. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir alors davantage notre ingratitude. Donc ça favorise, ça stimule la contrition. Et cela soutient notre confiance en Dieu. Voilà. Prends conscience de ça. Dieu est avec nous. Même les plus grands pécheurs, hein, doivent commencer par rendre grâce à Dieu. Même pour les petites choses dans l'ordre naturel. Hein. Matin, on ouvre les yeux, on se réveille. Voilà, la journée commence et puis ta 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 ta, boulot, métro, dodo. Non. Non, mais déjà à ce moment-là, remercier. Tac, j'ouvre les yeux. C'est beau ça déjà. Des millions de gens qui meurent dans leur lit, hein, chaque année. Des milliers chaque nuit. Des gens qui n'y pensaient pas. Hein. Un confrère comme ça, il y a quelques années. Hein. Un jeune, hein, il y a une trentaine d'années. Pas le matin, à l'office de prime, il n'était pas là. Bon. Il récite prime seul. Et puis, ensuite, ils vont voir dans sa chambre. Et puis, bah, il était mort. Il était mort dans son lit. Rupture d'anévrisme, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça prévient pas. Bon, ben, le matin, on ouvre les yeux. Bon, c'est vrai, on a l'habitude. Mais c'est quand même une bénédiction de Dieu. Merci mon Dieu, une nouvelle journée commence. Bon. Même si on marche du pied gauche, même s'il pleut, bon, une nouvelle journée commence. Donc, l'action de grâce. Ensuite, demandons à Dieu la grâce de connaître les péchés qu'on a commis. C'est une grâce. C'est une grâce de lucidité pour l'intelligence. Voilà. Troisième point, la revue des péchés. Depuis le dernier examen de conscience. Bon, ça prend pas des heures. Normalement, si on fait ça, un petit examen de conscience tous les soirs avant de se coucher, ça va vite. Hein. On se connaît. Donc on voit dans quelle direction il faut examiner. Ce qui ne va pas en général, bon, on connaît ses faiblesses. Quatrième point, on demande pardon de ses fautes. Voilà, je demande pardon. Profond repentir. Il faut demander la contrition au bon Dieu, car elle vient du ciel. Il faut mettre plus de temps à la demander qu'à s'examiner. Ah oui, en général, ce n'est pas ce qu'on fait. Hein. En général, on prend une liste. Bon, avec un stabilo, puis hop, on surligne. Tiens, j'ai fait ça. Non, peut-être pas quand même. Mais il y a des enfants qui font ça. Hein. Bon, on essaye d'aider les enfants, de leur donner des formulaires. Mais bon, il y en a qui vont un peu vite, hein, qui cochent, qui surlignent au stabilo. Je vais confesser 2 fois par semaine dans un collège, hein, la fraternité. Et donc je vois bien. Bon, il y a des enfants qui font ça très bien, il y en a d'autres qui vont un peu vite. Hein. Enfin, bon, ils viennent régulièrement. Ça, c'est l'un des aspects les plus intéressants, à mon avis, de l'école catholique. Mais bon, c'est une parenthèse que je vais m'empresser de refermer. C'est la confession fréquente. Très important pour les jeunes, ça. Voilà, on demande pardon. Cette belle citation, c'est le Saint Curé d'Ars. Hein. Il faut mettre plus de temps à la demander, la contrition, qu'à s'examiner. Car si on ne la demande pas, on ne l'a pas. Et ça arrive. Des gens qui arrivent au confessionnal et ils n'ont pas la contrition. Ben, on ne leur dit pas retour à la case départ et vous, sans toucher les 20 000. Hein. Non. Les gens sont là, c'est déjà bien. Donc on les excite à la contrition, on discute un peu avec eux et puis petit à petit ils obtiennent la contrition dans le cadre même du sacrement qu'ils sont en train de recevoir. Et le cinquième point donc, c'est la ferme résolution de se corriger avec le secours de la grâce, jamais sans la grâce. Donc les cinq points: rendre grâce, demander à Dieu la grâce de connaître les péchés, revue des péchés, demander pardon, ferme résolution. Il y en a parfois qui ne savent pas comment faire la prière du soir. Mais ça, déjà, ça suffit, ça. Oui. Ça suffit. Pas besoin de réciter un texte, là, très vite, le plus vite possible. Prières toutes faites, là, qui sont dans les livres. On peut amorcer une prière, hein, se mettre en présence de Dieu par une prière qu'on aime bien, une prière, bon, même qu'on a prise dans un livre. Mais ensuite, il faut que ça devienne un cœur à cœur, fervent avec le bon Dieu, quelque chose d'intime, de personnel. On n'est pas à la douane, là. Vous avez quelque chose à déclarer? Non. C'est un entretien familier entre un père et sa fille, tout simplement. Bon. Alors, pour la revue des péchés, on peut lire, bien sûr, ça peut nous aider, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Vous avez ça, d'ailleurs, sur le petit formulaire que on m'a prié de vous distribuer. C'est bien fait. Ça, vous connaissez, ça c'est vraiment le béaba. Hein. Les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. On peut aussi, c'est sans doute plus évangélique, s'examiner par rapport aux béatitudes. Vous voyez ? Et pour faciliter l'usage des béatitudes, dans le cadre d'un examen de conscience, on peut les prendre de manière négative, vous voyez, et faire précéder leur contraire. Bon, il y a 8 béatitudes, donc, ai-je fait preuve d'esprit d'accaparement, d'orgueil spirituel ? Dans les conversations, par exemple, ceux qui monopolisent la conversation pour se rendre intéressant, persuadés qu'ils ont des choses intéressantes à dire aux autres, ils se trompent souvent. Hein. Ai-je fait preuve d'esprit d'accaparement, d'orgueil spirituel, au lieu d'être pauvre en esprit? Ai-je été dur et hautain, au lieu d'être doux? Ai-je été insensible à la souffrance d'autrui, au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent? Ai-je fait preuve d'égoïsme et d'athéisme pratique, au lieu de rechercher la justice pour mes semblables et la sainteté de Dieu? Ai-je refusé de pardonner à mon prochain ou de lui faire le bien qui était à ma portée? Péché d'omission, ça existe. Au lieu de me montrer miséricordieux, suis-je allé vers le mensonge, l'hypocrisie, le plaisir égoïste, au lieu de rester pur? Ai-je été agressif, colérique, violent, au lieu de rester pacifique? Ai-je blessé gravement mon prochain et me suis-je montré lâche dans mon témoignage de chrétien au lieu d'aimer jusqu'à subir persécution pour autrui et pour Dieu? Ouais, c'est... Nous sommes à présent à la chapelle.